Donc, on a vu jusqu'à maintenant les trois premières journées de la création. On a vu dans la première journée que Dieu a créé, énergisé l'univers, temps, espace, matière. On a vu dans la deuxième journée que l'hydrosphère, c'est-à-dire tout le système de l'eau primitif, a été créé de la part de Dieu, et l'atmosphère, là, c'est la couche d'eau avec l'eau sur la terre, puis l'espace entre les deux. On a vu le troisième jour, là j'utilise les termes biologiques parce que ça fait beau, là. La lithosphère, c'est-à-dire tout qui a été créé. La lithosphère, c'est toute la partie sèche de la planète, tout ce qui est croûte terrestre a été créé et séparé de toute la partie aqueuse, la partie aquatique. Et dans le troisième jour aussi, on a eu toute la biosphère végétale, donc tout ce qui est les végétaux qui ont été créés sur la partie sèche. On a vu ça ensemble dans les derniers cours. Aujourd'hui, on va quand même passer assez rapidement sur la quatrième journée où est-ce que l'astrosphère a été créée, c'est-à-dire toutes les astres qui font partie du reste de l'univers, de l'espace, la sphère céleste. Une des raisons qu'on va passer un peu plus vite, c'est parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. On a fait déjà souvent allusion à ça en avant, là, avant qu'on y arrive. Donc, je vais passer un peu plus vite, mais quand même, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Puis après ça, on va commencer, j'aimerais qu'on parle de la cinquième journée, la création des animaux aquatiques. Puis dans ce contexte-là, je vais prendre une petite pause, parce que je pense que c'est à ce moment-là que les dinosaures ont été créés aussi. Puis je vais prendre une pause pour vous montrer qu'on a d'autres beaux textes qui parlent des dinosaures dans la Bible, dans Job. C'est qu'on va aller lire les textes ensemble dans Job aussi, après. Fait que j'aimerais ça, si on peut couvrir ça aujourd'hui. Donc, Genèse 1, 14. Vous pouvez tourner la page. Donc, Dieu dit, on est rendu à la quatrième journée, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Y a-t-il quelqu'un qui peut me lire sa version, si elle était différente de la mienne, ce verset-là, verset 14? Oui, M. Maltais. Que dans le fond, votre version ressemble pas mal à la mienne. Parce qu'il y a d'autres versions qui vont dire, ouais. La dernière phrase, c'est quoi ça dit? Non? Et ça, c'est ça. C'est ça. Il y a des versions. Cette version-là est un peu plus exacte, c'est plus littéral. Dans le fond, au lieu que ça dise que ce soit des signes pour marquer les époques, on devrait mieux traduire que ce soit pour les signes, pour les époques, pour les saisons. Donc, les luminaires sont des signes en eux-mêmes. Puis sont des époques, puis ils peuvent marquer toutes ces choses-là, OK? Ça a l'air nono, mais la façon que c'est dit, le mot « signe » ici, pour les astres peuvent être des signes en eux-mêmes, OK? C'est pas juste des signes pour marquer les époques, c'est des signes, OK? Maintenant, je le mentionne, parce que la traduction, quand elle est un peu plus littérale, des fois, ça l'éclaire un peu plus. Donc, on continue, verset 15. « Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. » Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Donc, on avait déjà parlé un petit peu quand même parce qu'on a parlé de la création de la lumière au premier jour. Puis en parlant de la création de la lumière, on avait sauté déjà au quatrième jour pour dire, écoutez, le soleil n'était pas déjà créé. C'est qu'on a parlé de l'idée que Dieu a créé la lumière sans que le soleil soit là. Puis ce n'était pas un problème en soi. C'est un problème pour quelqu'un qui pense que la lumière vient strictement du soleil, puis on est obligé d'avoir le soleil pour avoir la lumière. C'est un problème pour quelqu'un qui ne croit pas dans un créateur, parce que, je veux dire, Dieu, c'est aussi facile pour lui de créer le générateur de lumière, dans ce cas-ci le soleil, que de juste créer la lumière elle-même, comme les ondes elles-mêmes. Là, t'sais. Maintenant, comment Dieu se prenait dans les trois premiers jours pour que ces ondes-là partaient-tu de quelque part, étaient-tu créées en continu? C'est pas spécifié, mais c'est pas un problème en soi. Puis on en a déjà parlé d'autant plus que dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, le soleil fait pas partie intégrante du système, c'est que c'est pas un problème pour Dieu. T'sais. D'en faire un problème, c'est plus déjà de pas croire dans la toute-puissance du Créateur. C'est que nous, ce qu'on sait, c'est que la lumière intrinsèque, c'est-à-dire la lumière elle-même, était déjà créée avant, puis elle se comportait de la même façon que lorsque les astres ici vont être créés, elle se comporte toujours de la même façon, parce qu'on va voir que le même cycle jour-nuit est encore présent. Puis la seule différence à cette heure, c'est qu'au lieu que la lumière soit seule pour séparer les jours avec la nuit, Dieu a comme installé un générateur de cette lumière-là, Puis son rôle à lui va être la même affaire, de séparer le jour d'avec la nuit aussi, de présider sur le jour ou de présider sur la nuit, dépendamment du luminaire. C'est que à ce moment-là, puis ça va bien dans le sens aussi que Dieu, ce que je vais dire là, c'est que Dieu a créé des lois qui roulent d'elles-mêmes dans l'univers. Tu sais, l'univers roule de lui-même. Quand je dis de lui-même, c'est entre guillemets, parce que Dieu, on croit que Dieu soutient toutes choses. Okay? Mais Dieu peut soutenir toutes choses en essayant d'instaurer des lois qui roulent parce que lui, Dieu, il les a mis en branle, si on veut. C'est que dans ce cas-ci, Dieu maintenant installe un générateur de lumière dans la stratosphère pour pouvoir faire office de ce qui se passait avant. Mais le soleil va présider maintenant au jour. C'est que, c'est comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose qui change à ce point-là sur l'alternance jour-nuit. Maintenant, tout ce qu'on a, c'est qu'on a des as qui président. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer? En tout cas, parce que des fois, on pourrait avoir un problème. On en avait déjà parlé, comme quoi que ce n'était pas un problème que l'un soit avant l'autre. Allez-y. Ouais.
Alors, comment se sont faits les jours de nuit ou les jours
précédents? La question, c'est que maintenant, la question de M. Ely, c'est que maintenant, le soleil marque le jour et la nuit, mais avant, donc, c'est comme si le jour et la nuit n'étaient pas marqués, vous voulez dire?
C'est ça, parce qu'il parle de jour 1, jour 2,
ben, exactement. Et c'est ça l'idée, c'est que la lumière, dès le jour 1, la lumière a été créée et pour séparer le jour avec la nuit. C'est que cet office-là, cette fonction-là de séparer le jour d'avec la nuit, la lumière la faisait déjà dès le jour 1. C'est pour ça que je crois qu'ici, on peut conclure à la rotation de la Terre. Tout ce que le soleil amène de plus, le soleil va faire exactement la même chose, va servir aussi à diviser le jour de la nuit, à présider le jour de la nuit, mais il ne fait pas plus de choses que la lumière elle-même faisait déjà dès le jour 1, comme travail, si vous voulez, en guillemets. Bien, c'était ça. Ça faisait partie de la discussion. On avait déjà eu ces questions-là, dans la question de M. Ely, est-ce que ce n'était pas une lumière omniprésente? Moi, je crois que non. C'est ça l'idée ici. Et puis, comme je vous dis, on avait parlé, je pense, ça avait été une question manie de Mme Latour. L'idée qu'il y avait alternance jour-nuit, aujourd'hui, on le sait qu'aujourd'hui, OK? Si l'alternance jour-nuit, c'est à cause de la rotation de la Terre par rapport à une source de lumière. Donc là où est-ce qu'on... extrapole dans le jour 1, c'est que si l'alternance jour-nuit était installée dès le jour 1, on suppose que la lumière venait d'une source, peu importe laquelle, était unidirectionnelle, venait d'une direction, puis il y avait rotation à ce moment-là, parce qu'on ne voit pas dans le récit que cette alternance-là change tout d'un coup. Lorsque le soleil apparaît, elle continue l'alternance, il n'y a rien. Le soleil n'a pas instituer l'alternance jour-nuit, elle était déjà là. C'est pour ça que je vous dis, en le fond, lui, il amène un rôle de plus. On veut maintenant que le soleil, ça veut être la création de Dieu qui génère. Puis encore là, je vais mettre un bémol, qui génère la lumière. Comme je vous ai mentionné au début du cours, la lumière est difficile à comprendre de nos jours. Parce que la lumière, elle a comme deux natures en même temps. C'est, je vous ai même dit qu'il faut faire attention de dire que le soleil est comme la source ultime de la lumière. Ça se peut. C'est juste, en tout cas, tout du moins, la lumière est difficile à comprendre parce que ça semble, pas ça semble, c'est prouvé que c'est de la matière tout en n'étant pas de la matière en même temps. C'est des ondes, c'est de l'énergie, mais en même temps, c'est des particules. C'est comme deux choses différentes dans la même... qui font la lumière, mais c'est un petit peu... c'est étrange pour nous parce qu'on ne voit pas ça dans la création. Là. Un peu dans le même sens, là je vais faire un saut en théologie, là, mais bon, mais quand même dans le même sens pour nous, on a de la misère à concevoir, puis on ne conçoit pas de par la façon que Dieu a créé notre cerveau, que Jésus pouvait être à la fois 100% homme et être à la fois 100% Dieu. Puis à chaque fois qu'on se met à penser à ça à fond, puis qu'on veut essayer de réconcilier notre cerveau, on va être obligé de minimiser une des deux facettes de la nature de Christ, puis on ne peut pas le faire, parce que les deux sont clairs dans les Écritures. C'est que dès qu'on essaye de réconcilier ça, Mané, il ne sera plus autant Dieu qui est supposé de l'être, ou bien le contraire, il ne sera pas autant aussi humain qui nous l'est enseigné dans les Écritures. Dans le même sens, c'est difficile pour nous, mais dans toutes nos observations scientifiques, là, on ne voit pas des affaires qui sont deux réalités en même temps, là, des énergies où, à part dans la lumière, c'est un peu spécial. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je voulais dire, il faut faire attention de les gens qui voudraient sauter, avoir des contradictions dans le récit biblique. Ce n'est pas des contradictions, c'est des contradictions parce que ton cerveau a décidé que c'en était une, mais ça n'est pas une en soi quand tu lis le texte du tout. Là. Oui, bien, c'est ça qui est arrivé. Là. C'est clair que Dieu a créé quelque chose. Lorsque la lumière a été créée, il y a de quoi qui a été créé. Là. Des ondes, ou peu importe, des ondes, matière, il y a de quoi qui a été créé. Oui, Denis? La Trinité, là? Oui. 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 Oui, oui, oui. C'est clair qu'il était présent, puis c'est clair que je ne peux pas m'empêcher que de voir l'imagerie ici, OK? Tout du moins, parce que Jésus est présenté comme la lumière du monde, puis dans le texte le plus beau là-dessus, bien, le plus beau, le plus clair, Jean 1:1, où il y a une référence vraiment à la création, à Genèse 1, puis que finalement, la parole, c'est pas là juste que la lumière, il est comparé à la lumière du monde, il est aussi la parole de Dieu, puis la parole s'est faite chair. Mais la parole, lorsque Dieu parle pour la première fois dans Genèse 1, c'est qu'il crée la lumière. Tu sais. C'est qu'il y a un beau parallèle là. La première fois qu'on voit l'Esprit de Dieu dans Genèse 1, c'est lorsqu'il énergise l'univers, qu'il amène de l'énergie. Le même rôle qu'on voit l'Esprit de Dieu faire dans l'inspiration des Écritures, qu'on voit faire même dans nos vies spirituelles. Okay? On pourrait extrapoler, là, je ne suis pas en train de vous dire, mais on voit des beaux parallèles. Puis on a Dieu, le Père, aussi, qu'on voit dans la création. On peut pas s'empêcher de faire le commentaire. Sans faire ici un système, on le voit. Une chose que je veux mentionner, ce qu'on va, après ça, je pense qu'on va passer à la prochaine journée. Chose que je veux mentionner, vous voyez, trois petits mots, c'est même une petite phrase, c'est dit super vite à la fin d'avoir parlé des deux luminaires principaux, le soleil et la lune. Il fit aussi les étoiles. C'est intéressant, là, c'est trois, quatre mots, là, mais ces trois, quatre mots-là, ils viennent en créer du stock en mots, t'as dit. Là. Puis de toute évidence, les étoiles sont beaucoup plus grandes que notre planète, puis même que notre soleil dans la plupart des cas. Là. C'est des trucs immense. Là. Puis pour qu'on les voie de si loin, il faut qu'ils soient vraiment immenses parce qu'on est capable de les voir dans l'obscurité. Tu sais. Maintenant, probablement, même de ce que les gens peuvent le plus étudier, c'est toutefois pas nécessairement quelque chose de très complexe comme organisation chimique, contrairement à notre planète à nous qui est super complexe pour avoir la vie puis tout. Là. Mais c'est quand même intéressant, qui est mentionné rapidement, puis ça, je vous ai dit, c'est une autre chose que je vous ai dit, comme quoi que la Terre est au centre de l'univers. Quand j'ai dit ça vraiment dans le sens, dans l'importance dans le cœur de Dieu, puis l'importance tout court, parce que c'est elle qui est créée au début, puis pendant 4 jours, là, elle est toute seule dans cet espace-là. Le reste va être créé comme accessoire à la Terre. Les étoiles sont créées finalement pour éclairer la Terre, servir de signe, de temps, d'époque, pour l'orientation dans l'espace, dans le temps. Pas pour d'autres choses que ça. Mais c'est sûr que le cœur humain tortueux, lorsque péché rentre, va faire quoi? Là? C'est quoi que tu fais lorsque tu constates des choses qui ont de l'air immense, puis c'est impressionnant, puis c'est grand? Tu les idolâtres, ces choses-là. T'sais. Puis les peuples ont vite fait ça. Là, mais c'est intéressant que dans le texte, l'étoile, elle est tellement secondaire, puis pourtant, c'est peut-être des trillions d'étoiles que Dieu a créées en trois mots aussi. Là. Puis c'était des trillions de kilomètres cubiques de stock qu'il venait de créer, mais c'est pas ça le centre de l'histoire. Là. C'est pas, on va tous les chercher, mais on finit par trouver un martien quelque part. C'est pas ça le centre. Pas en tout, c'est même accessoire. Puis l'être humain en a fait le centre éventuellement, même dans plusieurs religions anciennes. Je m'en vais lire Deutéronome 4:19 à ce niveau-là. Une belle mise en garde. « Veille sur ton âme de peur que levant les yeux vers le ciel. » Donc ici, on a dans la loi de Moïse, dans ces textes-là. Donc, veille sur ton âme de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Une belle référence ici au quatrième jour de la création. C'est des choses que Dieu a données en partage, aussi grandes soient-elles, puis impressionnantes soient-elles. Puis Dieu a jugé bon de mettre en garde tout de suite son peuple par rapport à ça. Puis ceux qui ont étudié les religions primitives, vous allez pouvoir voir, puis même jusqu'à aujourd'hui, ça nous suit, hein, le zodiaque, l'astrologie, tout ça. Là, c'est que... Oui, Bertrand. Oui, on pourrait trouver un parallèle qu'à un moment donné, si tu te concentres trop sur la chose plutôt que sur le Créateur, tu fais la même chose que qu'on pourrait trouver dans des mouvements environnementalistes. Aussi, l'idée, elle est strictement, néglige tout à fait l'aspect d'un créateur, mais c'est sûr qu'on est en train de errer. T'sais. Si le créateur n'est pas présent dans la conception de la chose. Ouais. Cinquième jour de la création. Cinquième jour. Tournez avec moi au cinquième jour. Verset 20. On est rendu au verset 20 à 23. As-tu des questions jusque-là? Comme je vous dis, le jour 4, pas qu'il n'est pas important, on en avait déjà parlé beaucoup. Cinquième journée. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Encore là, littéralement, je ne sais pas si papa t'as... le verbe ici, le vrai.
Les eaux produisent en toute abondance.
OK. Donc, tu as un peu la même traduction. Ça serait encore plus clair si ce serait traduit que les eaux fourmillent. Que les eaux fourmillent de fourmillement. Okay? Ça veut dire que les eaux, tout d'un coup, soient remplies de... plutôt que les eaux produisent en abondance. Il y a une petite nuance ici. C'est ça, que les eaux foisonnent. Comme un moment où Dieu fait, je vais y revenir, là, fait foisonner tout de suite dans l'eau des êtres vivants. Ça, exactement, c'est la traduction très littérale de l'hébreu ici. Donc, Dieu dit que les eaux fourmillent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Là, dans d'autres traductions, ça va être les monstres marins ou peu importe. Là. Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Encore là, que les eaux ont fourmillé en abondance selon l'espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le cinquième jour. Donc ici, on semble retrouver la deuxième, troisième création ex nihilo. Ça veut dire que le verbe « bara » dans l'hébreu est utilisé ici comme création à partir de rien, au lieu du verbe « former » à ça. Et ça va bien ici, parce que quand on change la traduction, ça donne l'impression que Dieu a pris l'eau comme matière première pour créer les animaux marins, mais quand on regarde la traduction bien littérale, c'est plus que Dieu a dit que les eaux, tout d'un coup, fourmillent avec des animaux marins. Il y a vraiment ici que les eaux, tout d'un coup, ces animaux-là ont été créés ex nihilo. Ils n'ont pas été créés juste un couple, ils ont tout de suite fourmillé en abondance. Il y avait déjà beaucoup d'individus créés d'une shot. Et dans l'hébreu, c'est vraiment le verbe bara ici qui est utilisé. On aurait comme ici la deuxième création, ou troisième dans le fond, parce que Dieu, lorsqu'il a écrit au verset 1, la première journée, il a tout créé ex nihilo, l'espace, le temps, la matière, la lumière. Après ça, il y a eu beaucoup de réarrangements de ce qui était déjà là quand Dieu a créé le reste. Mais là, on a une deuxième création ex nihilo, si on veut, dans une journée différente. Mais en même temps, ça fait beaucoup de sens parce qu'ici, Dieu va créer une première entité qui n'a jamais encore été créée à ce point-ci dans les quatre autres journées. Dieu crée le souffle de vie, le nefesh. Dans l'hébreu, c'est nefesh. Puis ça, le souffle de vie n'est pas chez les végétaux. C'est quelque chose qui va vraiment différencier les animaux des végétaux. C'est cette idée-là d'un... L'Écriture dit souffle de vie. Mettons pas peut-être nos mots contemporains, ça va peut-être mélanger, mais il y a vraiment l'idée d'un souffle de vie qui fait en sorte qu'il y a quelque chose de différent là que des végétaux. Dans nos traductions, c'est traduit des fois le mot « nefesh » par « animaux vivants », le mot « vivant » dans l'expression « animaux vivants » ou par « âme vivante », dépendamment des traductions. Ça peut être traduit par « vie » ou par « âme » dans d'autres textes, ce mot-là « nefesh ». Donc, ça fait ici référence au principe de vie qui est commun aux animaux puis aux humains, okay? Que les plantes n'ont pas. Le souffle de vie que Dieu a insufflé dans les narines d'Adam, lorsqu'on va y arriver, c'est la même idée. C'est que c'est vraiment l'idée qui est derrière, que les créatures respirent, sont animées, ils sont capables de se mouvoir, puis ont le pouvoir de se déplacer volontairement. Il y a une volonté à quelque part d'aller à tel endroit. On sait que c'est différent, cette volonté-là, de l'animal et de nous. On sait que dans l'animal, il y a beaucoup qui est dans l'information génétique. On appelle ça comment encore, pas les réflexes chez les animaux? L'instinct, le mot que je cherchais tout à fait. Donc, verset 20, Dieu crée, Dieu ordonne maintenant que ces animaux-là apparaissent dans les eaux. Et le verset 21, comme il respécifie ce qu'il vient de faire au verset 20, pour donner un peu plus de clarté, parce que juste sur le verset 20, on a le mot hébreu qui est utilisé pour les animaux vivants dans l'eau, ça nous donnerait... En tout cas, on n'aurait pas beaucoup de détails. On ne saurait pas ça couvre quel genre d'animaux. Ça, on pourrait penser même que c'est des animaux particulièrement plus petits puis qui foisonnent, qui glissent dans l'eau. Maintenant, au verset 21, Dieu spécifie qu'est-ce qu'il a créé et en différentes classes, si on veut. Les grands poissons ou les monstres marins, dépendamment de vos versions. Tous les, puis là, il spécifie ceux-là, entre autres, peut-être parce que les gens étaient au courant qu'ils existaient. Ils voulaient juste savoir quand est-ce qu'ils ont été créés, cette gang-là, tu sais. Puis tous les animaux, là, il spécifie tous les animaux vivants qui se meuvent dans l'eau. Là, toute la gang ont été créés là, que les eaux produisent en abondance. Et aussi tous les oiseaux ailés, tous ceux qui sont capables de vol dans l'espace atmosphère, ici dans l'espace étendu, puis qui vont vivre éventuellement sur la terre pour se reproduire, pour se percher, bon, parce qu'ils ne sont pas en permanence dans les airs. Donc, Dieu spécifie ici que c'est ça qui a été créé. Donc, l'expression « grand poisson », des fois, vous avez l'expression « grand monstre marin ». La plupart du temps, ailleurs, en anglais, ce mot-là de l'hébreu a été traduit par « dragon ». Okay? Je ne sais pas même si c'est à l'extérieur de la Bible, de l'Ancien Testament, mais il est traduit même par « dragon », pas dans Genèse 1 ici. On peut conclure, par exemple, que cette expression-là, les grands poissons, les grands monstres marins, ce n'est pas nécessairement juste à ce que nous, on pourrait penser là, de dinosaures. Là. On pourrait penser à des gros mammifères marins, des gros reptiles marins. Parce qu'à ce point-ci, là, les classifications ne sont pas basées sur mammifères, reptiles, amphibiens. Là. Nous, c'est notre façon de penser. Là. Mais même quand le mot oiseau est utilisé ici, c'est vraiment l'idée d'animal qui possède des ailes capables de se déplacer dans les airs. T'sais. Au pire, la chauve-souris est inclue si elle était déjà là. Puis le ptérodactyle aussi, le dinosaure qui est volant. C'est pas... Puis la même chose au niveau, l'idée ici, c'est que c'est des animaux qui vivent dans l'eau. C'est que ça peut inclure ce que nous, on appelle des mammifères, les baleines, comme des reptiles plus aquatiques, comme certains dinosaures aquatiques, comme des amphibiens qui, dans le fond, dépendent ultimement tout le temps de l'eau, qui sortent à peine, mais il faut tout le temps qu'ils retournent à l'eau. C'est que ça inclut énormément de choses que nous, on constate aujourd'hui d'animaux marins. Les insectes, la plupart des insectes là, se reproduisent dans l'eau. Il faut que le larve, faut qu'il pondent dans l'eau puis qu'il y ait éclosion dans l'eau. Il y a beaucoup de choses ici qui sont incluses. Pas juste dans le terme grand monstre marin, mais aussi dans le terme tous les animaux qui se meuvent dans l'eau. Okay? C'est intéressant juste de concevoir ça ici. C'est vraiment Dieu, sa classification ici, c'est animaux qui se meuvent dans l'eau et animaux qui se meuvent dans les airs. Puis dans l'eau, les gros comme les petits, toute la gang. Okay? C'est ça la classification. Des fois, il y a certains animaux qui seraient durs à classer, mettons comme le crocodile. Bon, ben, il y a certains animaux qui semblent vivre très 50-50 dans l'eau puis sur la terre. C'est qu'il était-tu créé au sixième jour, cinquième jour? J'espère qu'on ne se divisera pas là-dessus. On va pas partir l'église qui est pro-crocodile le cinquième jour puis pro-crocodile le sixième jour. En tout cas, je ne veux pas être responsable de ça, je le dis tout de suite. Mais bon. Quelle bébite? Des maringouins? Ah, moi, je pense qu'ils ont été créés, là, moi, les bébites. Mais. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque. Là, je m'avance sur le cours, mais les maringouins ne se nourrissaient pas de sang. Okay? Il n'y a pas d'affaire, la naïve qui se tapochait tout le temps pour se. Ça ne marchait pas, ça. C'était pas non plus rien de romantique, là, de taper ta femme quand il est marié. Il n'y a rien de ça, là, ça ne marchait pas. Fait qu'on reviendra, il n'y avait rien qui se nourrissait ou qui dépendait de d'autres à leur désavantage pour survivre, OK? Ça, je ne sais pas, ils buvaient-tu du nectar, les maringouins? J'ai aucune idée, il y avait peut-être probablement le petit nez, mais ça servait à boire d'autres choses que du sang, OK? On va y revenir de toute façon. Donc, un autre point intéressant dans cette création-là, en plus que le nefesh, l'âme vivante, est créée, on a aussi le fait que Dieu... porte une attention particulière à cette création-là, il va lui donner une bénédiction. Il va lui adresser un commandement, même au verset 22. Dieu les bénit. Quelque chose de spécial, moi je crois ici avec ce verset-là, on voit que Dieu a une attention particulière pour les animaux, OK? C'est pas vrai là, qu'on peut se promener et aller faire ce qu'on veut. Dieu les bénit. Il y a une attention particulière, puis j'ai d'autres versets pour backer ce que je viens de vous dire. Puis il leur donne aussi un commandement. Il leur dit aux animaux, soyez féconds. Multipliez-vous vous aussi et remplissez les eaux des mers, puis les oiseaux remplissez, multipliez-vous sur la terre. Donc Dieu demande ça aux animaux. Donc le premier point que je veux dire au niveau de la bénédiction, on voit un souci particulier de Dieu pour les animaux. Ça se complète bien dans le Nouveau Testament. J'ai deux textes certainement qui vous viennent à l'esprit. Quels sont les textes que vous pensez que Jésus les phrases que Jésus a dit qui pourraient nous faire penser qu'il ne se fout pas de ce qui se passe au niveau de la biosphère animale? Oui, exactement. Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est que oui, dans ce texte-là, d'ailleurs, ça dit que Dieu, on vaut plus que les oiseaux, là. Mais les oiseaux ne valent pas rien non plus pour Dieu. Donc, on va prendre ça que le texte dit. Oui, tout à fait. Tu n'as pas pensé à celle-là. Tu n'as amusé. Oui. Wow! C'est pas moi. Bon, je suis mal pris, là. Il y a de la génétique. Là. Bon, Matthieu 10, 29. Mais de toute façon, là, c'est ça. On n'embarquera pas dans la question de la chasse, mais j'ai des bons versets pour blague. Bon, ceci étant dit, on n'embarquera pas. Matthieu 10, 29. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre. Un passereau, c'est un petit oiseau. Il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Donc, des versets qui appuient ça. Le deuxième point qui est intéressant dans le commandement que Dieu a donné aux animaux d'être féconds, ça vous fait penser à quoi? Pour ceux qui avaient regardé un peu de documentaire là, sur les animaux dans votre vie, là, que c'est intéressant. Il y a vraiment un commandement de Dieu. Mais moi, j'ai l'impression, aujourd'hui, on le voit la répercussion encore de ce commandement-là dans l'instinct animal de se reproduire. Je ne sais pas si vous savez, s'il y a bien une affaire qui éclate chez les animaux, qu'ils se reproduisent, puis ils n'arrêteront pas, là, tu sais. Puis tu écoutes des documentaires, des fois, ils vont y aller à travers tout que du travail là, pour arriver à se reproduire. Puis à ce temps, avec les conditions adverses qu'on a dans le nouveau monde, là, je pense aux pingouins, là, vous avez vu là, l'histoire de pingouins, ils ont fait des films. Je veux dire, des fois, il n'y a pas grand de ta progéniture qui survit, mais tu vas, tu sais, il y en a un qui va geler en motadie pour en garder un œuf, puis l'autre qui va voyager pour aller chercher de la bouffe. Mais c'est comme le programme est là, chaque année, ils vont. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Ce n'est pas l'être humain qui dit ah, ben là, je suis assis après deux enfants, on arrête ça. T'sais, non, c'est l'autre recommence. Puis c'est pas le fun. Là. Ça n'a pas l'air de le fun, en tout cas de l'extérieur. Là. Ça n'a pas l'air bien le fun. Mais c'est une belle. La menthe religieuse, moi, ça, je ne sais pas si ça a bouffé le mâle aussi à l'époque. Là. Mais le point, c'est que c'est comme si le commandement résonne encore dans la tête des animaux. T'sais. Moi, me reproduire, je vais être fécond. T'sais, peu importe si ça n'a pas de sens ce que je fais parce que c'est pas rentable. T'sais, je passe trois quarts de l'année pour donner un an. T'sais. Donner 10 enfants, ils vont se faire bouffer automatiquement par les deux loups à côté. Il va en rester un. Puis si, bon, t'sais. Fait que, whatever, ils font pareil. Bon, je vais arrêter. Là, on va être parti sur une. OK, bon. C'est étant dit, quand même, on a une belle manifestation de l'activité du Créateur jusqu'à ce jour. On retrouve l'origine de l'instinct reproducteur chez les animaux au verset 22. Maintenant, j'aimerais ça qu'on fasse une courte discussion sur le mot tamim. C'est un mot utilisé en hébreu pour des monstres qui ont été créés à l'époque et sur, dans le fond, l'existence des dinosaures. Là. C'est évident qu'ils ont existé. Les fossiles en sont une preuve qu'on ne peut pas, là, je veux dire, on ne peut pas regarder ça et dire qu'ils n'ont pas existé. Tournez donc avec moi. Mais dans le fond, je vais vous lire une couple de versets où est-ce que ce mot-là, tamim, le mot qui fait référence aux monstres marins, même que dans Genèse 1, revient dans d'autres textes. Okay? Puis des fois, il était traduit différemment. C'est juste pour votre curiosité, je vous dis ça pareil. Dans Exode, quand c'est le temps que les magiciens veulent impressionner le pharaon, puis Moïse et Aaron aussi, puis ils vont changer les verges en serpents, les magiciens. Le mot serpent, à ce moment-là, c'est le mot tamim, le même mot qu'utilisé pour monstre marin. Je vais juste vous dire, parce que nous, des fois, on va penser automatiquement que c'est un serpent, mais ça peut en être un, mais c'est inclus dans l'idée de ces animaux-là. Dans Job 7, 12, « Suis-je une mer ou un monstre marin pour que tu établisses des gardes autour de moi? » Le mot monstre marin, ici, c'est tamim. Souvent, ça va être traduit par le mot chacal. C'est un peu étrange. Nous, on va passer à un chacal, mais ce n'est pas nécessairement le chacal que nous, on pense aujourd'hui. Et Job 30 dit, « Je suis devenu le frère des chacals. » C'est le mot tamim. Vous allez avoir ça dans vos notes en passant, là, mais je les lis rapidement. Psaume 74, 13, « Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. » Isaïe 27, 1, « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard. » Le Léviathan, serpent tortueux, il le tuera, le monstre qui est dans la mer. Isaïe 27, 1. Jérémie 9, 11. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repaire de chacals. C'est que, tu sais, je pense ici, on pense à une gang de renards, là, mais ça serait beaucoup plus un repère de monstres quelconques, reptiliens, dinosauriens quelconques, qui, bon, whatever. C'est juste intéressant de voir que le mot hébreu que tu utilises, c'est pas l'idée que ça nous donne quand il est traduit en français. Il faut oublier qu'il y a bien des traductions qui ont été faites à une certaine époque, puis il y a quand même des fois une teinte un petit peu de ce qui était véhiculé à l'époque de la traduction, OK? Ce n'est pas des mensonges, mais il y a une teinte dans l'interprétation des faux dans le choix des mots. Jérémie 51, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti. Encore le mot tamim pour dragon ici. Série de textes, je suis pas mal convaincu, c'est dans vos notes. C'est sûr que ça l'intéresse d'aller voir ça un peu plus, qui tripait dinosaure puis vous voulez en parler à vos enfants. Vous pourrez aller voir les textes. Maintenant, j'aimerais ça qu'on lise, par exemple, deux textes plus ou moins complets dans Job. C'est que si vous voulez tourner avec moi dans Job 40, 15. Un dragon, c'est un dinosaure dans le fond, si ce n'est quoi. Puis on a trouvé certainement des fossiles de dinosaures qui ont des appareils nasaux assez étranges. On ne sait même pas. Des organes tubulaires, là, on a encore les os de ça dans la fossilisation, puis on ne sait pas exactement quelle en était l'utilité, mais on pourrait certainement extrapoler. Mais oui, il y a des fossiles de dinosaures avec des cavités nasales spéciales qu'on ne retrouve pas de nos jours. Ça, c'est clair que ça a été trouvé, ça. Puis ça, c'est dans mes cours à l'université que j'ai vu ça. Puis là, je vais regarder ces textes-là avec vous parce que les traductions, malheureusement, n'ont pas été super bonnes. C'est qu'ils ont mis des traductions comme hippopotame puis crocodile quand ils auraient dû juste utiliser le terme hébreu parce que ça nous donne une fausse idée sur ce qui est écrit dans le texte de Job. Oui, Karine? Ben, les ptérodactyles, là, on n'a pas. Ça, c'est en passant, là, quand vous regardez des films de dinosaures pour enfants ou pour adultes, là, c'est assez réaliste dans le sens que les fossiles qui ont été trouvés, là, c'est actuellement l'animal. Là. Ce qui n'est pas réaliste, c'est peut-être la chair qui est rajoutée dessus, puis on façonne ça un petit peu plus des fois stylé. Là, on met ça un peu stylé, mais je veux dire, le ptérodactyle était gros comme on peut le voir dans les films, parce qu'ils ont trouvé des gros fossiles. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça fait un des points quand je disais des fois que c'est difficile de s'imaginer qu'il soit capable de vraiment voler par rapport à sa portée et son poids, mais ça aurait plus de sens dans une atmosphère à pression plus grande, parce que ça veut dire que ses ailes reposeraient sur plus de masse, plus de volume en dessous de masse de gaz et qu'il serait capable d'avoir une meilleure portée. Tu sais, on avait parlé vite que le ptérodactyle. OK, c'est que dans Job 40, 15, voici l'hippopotame. Donc, le mot hippopotame, là, c'est vraiment pas une bonne traduction. Encore, comme je dis, c'est une relique d'une époque. Ça aurait été mieux juste de laisser le mot hébreu, parce que la description de l'animal que Dieu fait après n'a rien à voir avec l'hippopotame, OK? Que nous, on connaît, OK? Nous, l'hippopotame, selon nous, c'est ce que vous avez vu. 40-15, oui. Ben, ouais, c'est vrai que ça peut être décalé. Ça commence avec « voici l'hippopotame » ou « voici le béhémoth », OK? B-E-H-E-M-O-T-H, qui est le mot hébreu, qu'on aurait peut-être dû garder comme ça. En passant, un hippopotame, ça, c'est impressionnant aussi. Là. C'est où qu'il y en a des hippopotames? J'en ai vu récemment. Non, mais je veux dire au Québec, dans quel zoo? Au zoo Granby, qu'il y en a une gang. Ouais. Mais au zoo Granby, quand tu te rapproches de la vitre et qu'ils sont en dessous de l'eau, c'est quand même assez gros. Puis d'ailleurs, c'est assez dangereux, hein, je ne suis pas sûr. On a peur souvent des crocodiles, là, mais les hippopotames, on va dire que ça laisse pas leur place, même souvent. J'irai voir sur YouTube, là, hippopotame versus crocodile. Vous allez voir des gros combats entre les deux, puis c'est pas. Vous pouvez montrer ça à vos enfants aussi, avant qu'ils se couchent. Bon, voici le béhémoth à qui j'ai donné la vie comme à toi. Là, l'idée, il faut comprendre aussi que là, Dieu est rendu à un point avec Job où il veut que Job s'humilie, qu'il reconnaisse que lui, l'Éternel, il est le Créateur. Puis Dieu veut juste établir les rôles ici. Puis Dieu va prendre de ses créations, de sa création, puis se servir, montrer, regarde, là, ça t'impressionne, cette affaire-là. Là. Ben, c'est rien, là. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui est derrière ça. C'est qu'il va aller chercher là, comme les bébites, t'sais. Les bébites que Job, de toute façon, puis la gang devait avoir la chienne déjà à l'époque. T'sais. Il va aller chercher, là, je veux dire, entre l'hippopotame qu'on connaît, puis la bébite qui est décrit là, est pas mal plus épeurante, ça va faire beaucoup plus l'argument de l'Éternel à ce point-là dans Job quand il va le faire. Donc, au verset, donc on continue. « Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Bon, » c'est intéressant, là, c'est que peut-être qu'on est loin à l'époque aussi de Job. Et c'est peut-être un être qui a vécu assez anciennement parce qu'il semble que le béhémoth mangeait était végétarien. « Le voici, sa force est dans ses reins. » Ça va jusque-là. et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Un hippopotame, ça ressemble à ça, si vous l'avez vu, c'est assez impressionnant. Sauf qu'au verset 17, c'est là que ça ne marche plus bien. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Si vous avez vu les hippopotames aux yeux de Granby, puis vous regardez leur queue, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est probablement la patente sur le corps qui est un peu ordinaire. Là. Tu sais, c'est un peu, t'as l'impression que c'est manqué. Là. C'est un petit chicot qui traîne en arrière. Certainement pas de quoi qui ressemble à un cèdre. Tu sais, un cèdre, là, le tronc d'un cèdre, tu sais, ça va s'élargissant, ça a de l'air solide. Là, tu sais. C'est que l'animal ici a une queue qui a de l'air solide. Là, puis là, on peut facilement s'imaginer les diplodocus, les diplosaures, les diplochoses. Tu sais, les gros dinosaures à long cou là, qui ont la grosse queue là, qui s'en va de large à petite en arrière, mais là, ça a de l'air robuste, ça a de l'air, ça cote là-dessus, puis ça arrête, tu sais, c'est pas tant, on peut pas s'accoter sur sa queue, là, tu sais. Ça va beaucoup plus dans cette idée-là, le verset qui a 17. « Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, donc des cuisses solides. Ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a pourvu d'un glaive. » Encore là, on essaie de trouver chez l'hippopotame qu'est-ce qui ressemblerait à un glaive. On ne trouve pas ça vraiment, mais je peux vous garantir qu'il y a une gang de dinosaures, par exemple, dans les fossiles, qui ont toutes sortes d'organes qui ressemblent à des glaives, soit des plaques sur le dos, ou même des fois en dessous, ou des fois au bout de la queue, ou un rhinocéros, ça pourrait être un exemple, ou est-ce qu'on aurait ici un... Je pense que le rhinocéros, sa queue n'est pas plus impressionnante qu'un hippopotame. Moi, mais je serais curieux, mais je pense pas que je la comparerais à un cèdre. Ouais, ça. Ouais, je ne la comparerais pas à un set pareil. Mais en tout cas, je vais aller voir sur YouTube tantôt. Non, c'est sûr. C'est quand on continue, il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Ça semble être un animal qui vit dans les régions marécageuses. D'ailleurs, pour ceux qui avaient entendu parler de Mokele Mbembe là, au Congo belge ou Congo-Brazzaville, en tout cas, les habitants là-bas qui croient qu'il y a des dinosaures qui existent encore, c'est dans les grands terrains marécageux du Congo. On parle, c'est des zones très, très marécageuses, inaccessibles. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent, que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas, que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez? C'est que... Voilà les versets là, que je voulais lire qui décrivaient ici le béhémoth. Certainement pas l'hippopotame, là, surtout au niveau de la queue ou même du glaive qui font référence ici. Donc, il y a un animal ici qui semblait vraiment faire peur et être comme le roi de la montagne ici. Puis Dieu se sert de cet animal-là pour impressionner Job, entre guillemets. Un autre animal dans Job que je veux voir, qui est encore, je dirais, peut-être plus impressionnant, il y a plus d'allusions quand même qui nous font penser à un dragon, même à un dinosaure quelconque. Le Léviathan, Job 41, verset 1. Job 41, verset 1, le Léviathan. D'ailleurs, le Léviathan, c'est un terme qui a été réutilisé dans plein de films de science-fiction. Vous pourriez même taper Léviathan, vous allez trouver un film d'horreur à quelque part avec un monstre. Là. C'est que c'est ça, c'est un mot hébreu dans le fond, qui décrit une bête épeurante. Sauf que dans le français, dans la plupart des traductions, le mot « Léviathan » a été traduit par « crocodile ». Mais encore là, ce qui va nous être décrit, on va le lire tranquillement, rien à voir avec un crocodile dans le texte. Rien à voir avec le crocodile que nous connaissons, nous, aujourd'hui, tout du moins. Okay? C'est que, encore, c'est Dieu qui parle à Job, encore pour confondre Job. « Prendras-tu le Léviathan à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? » Comme si c'était peut-être monnaie courante en passant à l'époque, il y avait déjà peut-être un élément de chasse de la part des hommes pour essayer de maîtriser ces bêtes-là qui leur faisaient peur. 41-1. Ah, c'est 40-20, c'est bon, c'est ça, il y a un décalage dans Job, là, dépendamment des versions. 40-20 ou 41-1, pour être checké. Ou 40-25. Mes amis, on en a plusieurs. Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Ben jusque-là, tu sais, je ne ferais rien de ça avec un crocodile, ça va. Te pressera-t-il de supplications et te parlera-t-il d'une voix douce, le Léviathan? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Tu comprends? Dieu est en train d'essayer. Il est un petit peu pratiquement. Il fait de l'humour. Là, je veux dire, t'as la chienne de cet animal-là. Là, pourquoi tout d'un coup, là, tu irais. Bon, peu importe. Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser les jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui, tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face, moi? De qui suis-je le débiteur? Là, Dieu parle de lui-même. Je le paierai sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres. Donc là, il revient au Léviathan après avoir parlé de lui-même un peu. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? On est toujours dans un contexte pour être un crocodile. Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ses magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Encore là, on pourrait peut-être penser à un crocodile, mais il y avait vraiment une belle allusion aussi aux écailles reptiliennes, à des écailles là, serrées ou des plaques serrées sur le reptile. Là. Il fait référence à ça. À ses boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Tu ne peux pas pénétrer ça avec une flèche. Ils se serrent l'un contre l'autre, si on veut ces écailles-là ou ces plaques, et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Et là, ça devient intéressant au verset 18, dépendamment des versions. « Ses éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. Son souffle allume les charbons. Sa gueule lance la flamme. » Donc, je veux dire, là, on a assez d'allusions claires sur le fait qu'ici, on a un dinosaure capable de produire, qu'une chambre de combustion interne quelconque est capable de produire une flamme quelconque. Puis comme je vous dis, on a des fossiles de ce qu'on appelle de dinosaures qui ont de l'appareillage qui s'apparente à ce que ça devrait prendre pour pouvoir produire ça. Ceux qui connaissaient, il y a un insecte, là, le scarabée bombardier, c'est ça son nom? Il y a un insecte qui produit ce genre de choses-là, puis pour arriver à le produire, un genre de jet enflammé. C'est-tu du feu dans son cas? C'est-tu un feu ou c'est plutôt un mélange toxique? Peu importe, le point que je voulais faire, c'est pas autant que c'est un feu, un mélange toxique, c'est que les substances sont contenues dans deux réservoirs séparés dans l'animal, parce que ces substances-là, s'ils seraient en contact dans l'animal, l'animal exploserait, OK? Mais ils sont réunis, ils sont comme dans deux cavités séparées, ils sont réunis lorsqu'il s'est projeté dans un autre organe. C'est qu'on peut entrevoir ce genre de principe-là aussi dans un dinosaure de ce genre-là qu'on vient de décrire ici. Il y a beaucoup de poésie et d'imagerie dans le texte, on comprend, là, il y a de la comparaison. Sauf que le feu qui parle ici est réel dans l'animal, mais il le compare à une flamme, puis il le compare à ci, à ça. Comme qu'il a fait avec ses écailles, il les compare à des boucliers, mais ils sont là, les écailles. Puis de la même façon, l'animal aussi crache le feu, là, comme on pourrait dire. La force a son coup pour demeure. C'est que la force dans le coup, un animal qui a un coup solide. Là, on a comme pas mal quitté à ce point-là le crocodile avec l'idée du feu, là. Et l'effroi bondit au-devant de lui, ses parties charnues tiennent ensemble, fondues sur lui, inébranlables. Tu sais, vraiment une bête qui a une carapace solide puis qui est bien soudée ensemble. Tu sais. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Pas dans le sens d'un pêcheur, là, mais dans le sens que c'est solide. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur. Donc, c'est un crocodile, ça ne se lève pas trop sur deux pattes. C'est pas ça qui fait peur d'un crocodile. Mais si on a un animal qui est capable de se lever sur deux pattes, puis il m'a dit que le monde commence à déguerpir. Ça va tout dans le sens d'un genre de tyrannosaure cracheur de feu slash dragon. C'est pas des histoires qui ont été inventées de toutes pièces. Il y a certainement une réminiscence ou un souvenir d'une époque où ces animaux-là ont été inventés, autant dans les contes populaires qu'ici dans la Bible, qui n'est pas un conte populaire. Déjà, bien, c'est vraiment un texte véridique. Donc, quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée, la lance, le javelot, la cuirasse ne servent à rien. Il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille. Il rit au sifflement des dards. Sous son ventre sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il étend sur le limon. Intéressant, il y a encore des animaux dans les fossiles qu'on a trouvés là, qui sont hercés, là, sont comme leur ventre est lodé. En tout cas, ils ont plusieurs pointes en avant qui pouvaient se servir, peu importe pourquoi ils s'en servaient dans des. Pour impressionner une femelle ou pour ramper de quoi à terre ou juste tuer un animal. Mais ça, on voit ça dans des dinosaures, des fossiles. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière. Intéressant, ça semble être un animal ici qui vit qui est aquatique ou qui se trouve, en tout cas, qui est capable de se trouver dans l'eau. Puis à ce moment-là, bon, ben, s'il sert de son même appareillage, ben, il va faire bouillir l'eau. Là, c'est ça l'allusion ici. Il l'agite comme un vase rempli de parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme, l'eau, prend la chevelure d'un vieillard, la fumée ou whatever, le blanchâtre dans l'eau qui peut laisser derrière lui une traînée. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. C'est que le but ici, juste de vous montrer là, que la Bible, ça fait déjà bien longtemps qu'elle parle de beaucoup de choses, même qu'on a découvert par la suite. T'sais, les dinosaures, c'est quelque chose. Moindrement, quelqu'un lit ce texte-là avec l'ouverture d'esprit qu'on a aujourd'hui, puisqu'on en a trouvé en masse des fossiles, puis bon, toute la patente. T'sais, c'est clair là, qu'on a des descriptions aussi de genre reptiles effrayants, de dinosaures de l'époque. Puis c'est clair qu'ils ne sont plus là aujourd'hui de cette façon-là. Comme je vous ai dit, on va y revenir lorsqu'il y a eu les changements après le déluge. Mais certainement, là on lit ça, puis ça nous fait peur. Là, puis je veux dire, là, tu dis, vous ne pouvez rien faire contre lui. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, l'être humain, c'est probablement la création de Dieu qui est capable, qui est la plus épeurante en bout de ligne, parce qu'on va finir par créer de quoi, puis on va le péter, cette affaire-là. T'sais. Puis c'est sûr que, puis même, je veux dire, on parle des requins blancs aujourd'hui pour dire que ça fait peur. C'est vrai, ça fait peur un requin blanc, mais la réalité, c'est que les requins blancs vont être éventuellement menacés d'extinction parce qu'on les tue. Là. C'est que oui, je suis tout nu dans l'eau, puis un requin blanc, j'ai peur, mais je suis assez intelligent pour me bâtir de quoi un arsenal pour tous les pêcher et les tuer. C'est quand, dans un autre sens, c'est, nous, on est capable de s'organiser pour s'en débarrasser aussi, comme qu'il a dû certainement avoir à l'époque. À un moment donné, comme je vous l'ai dit, les peuples qui se bâtissaient des villes puis des campements, tout ça, à un moment donné, je veux dire, si tu fais un kilomètre puis tu as un troupeau de tyrannosaures dans le coin, puis tu veux élever tes enfants, tu sais, d'une façon calme, puis tu veux te coucher le soir puis juste être cool, là, ben bon. Moi, en tout cas, si j'avais été responsable de ce tribu-là, je me serais organisé une équipe. Je vous aurais dit, allez-y, non. Mais je me serais organisé une équipe, en tout cas, des nouveaux outils quelconques, whatever. Là, si, on peut, je ne sais pas, patenter des bombes. Ou, on se serait arrangé pour être sécuritaire éventuellement, puis on aurait certainement ciblé avec la permission de Dieu, parce qu'au début, ce n'était pas ça. Dans le monde parfait, puis dans l'ancien monde, il n'était pas prévu cette intimité-là entre l'homme et l'animal, puis de se nourrir même de viande. C'était nullement dans le plan de Dieu initial. Okay? Donc, je termine avec ça, je crois. On arrive 10 heures, c'est la fin du cinquième jour. Donc, c'est dans le cinquième jour que qu'il semblerait que la plupart des dinosaures même auraient été créés, parce que la plupart des dinosaures sont assez dépendants de l'eau aussi. On le voit dans le texte de Job, puis on le voit aussi. Peut-être aussi dans le sixième jour, on en aurait créé, mais beaucoup plus probablement dans le cinquième jour. C'est que je termine avec ça. Puis, c'est des questions, venez me voir. Dans le fond, je pense que... À ce point-ci, j'ai une minute. Là. C'est que si quelqu'un aurait une question quelconque à poser, c'est le temps pour le groupe. Ou sinon, la semaine prochaine, on va débuter avec le sixième jour. Je vous envoie les notes cette semaine qui couvraient le troisième, quatrième. Je vais probablement même vous envoyer les notes 3, 4, 5, 6 jours. Le troisième ou sixième jour cette semaine, je vous envoie toutes les notes.